Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons te voir. Nous ne pouvons te voir avec les yeux de la chair. Et tu interdis qu'on fasse une image de ta personne. Cette image, aussi belle soit-elle, ne sera qu'une caricature de ta personne. Jamais nous ne pourrons représenter, nous humains, nous physiques, le Dieu qui est esprit. Mais Seigneur, il t'a plu de mettre ton image en nous. Seigneur, nous voulons te représenter dans ce monde afin que les hommes puissent te voir en nous, qu'ils puissent voir l'image de Jésus-Christ, le Dieu puissant devenu homme, fils, parce que né d'une femme, qui s'est abaissé jusqu'à nous. Même lui, qui peut le représenter? Oh, que son image soit en nous. Oh, que sa vie soit en nous. Que sa sainteté soit en nous. Que son caractère soit en nous. Que sa longanimité soit en nous. Que sa patience soit en nous. Que sa puissance et son autorité soient en nous. Et c'est ainsi, oh Dieu, que le monde verra et connaîtra qui tu es. Tu veux que ceux qui t'adorent, t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, en esprit, si ton esprit est en nous, mais s'il n'est pas en nous, notre adoration n'aura aucun effet. Nous avons besoin de te rencontrer, d'être en communion avec toi, de recevoir de toi, Seigneur, de recevoir de toi ton esprit. Car ton esprit, c'est une partie de toi-même. Et ton esprit qui est en nous, t'adorera à travers nous, car humainement parlant, nous en sommes incapables. Ô Esprit Saint, Esprit du Dieu vivant, descends sur les tiens, ceux qui veulent marcher dans la lumière et la vérité, ceux qui cherchent et combattent contre le péché, cherchent la sainteté. Que ton image soit en eux, que ton esprit soit en eux, et que leur adoration te soit agréable, car elle vient de l'Esprit. Tu nous parles encore, Seigneur, s'il te plaît, afin que nous comprenions ce que tu veux dans notre vie et notre marche avec toi. Que ton esprit, Seigneur, inspire chaque parole au nom de Jésus. Dimanche dernier, nous avons touché déjà ce deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras pas devant elle. Mais nous n'avons pas épuisé le texte. Il y a encore à dire. J'aimerais vous parler ce matin comment représenter Dieu. Ce Dieu qui ne veut pas être une image taillée. Ce Dieu qui ne veut pas être l'œuvre de l'art d'un homme quelconque, excellent peintre, excellent sculpteur. Ce Dieu qui ne veut pas être comparé à une œuvre faite de main d'homme. Comment représenter ce Dieu? L'apôtre Jean, au chapitre 5 de la première épître de Jean, au verset 21, dit: « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles. L'Ancien, comme le Nouveau Testament, nous interdit de vouloir faire une idole, de vouloir faire une représentation. Une idole, par elle-même, est la représentation d'une personnalité, disons, j'allais dire extraterrestre, non, mais disons, d'une personnalité qui n'est pas charnelle et qui est spirituelle. Que ce soit une personnalité satanique, ou que ce soit une personnalité divine, d'un ange ou d'un être de ce genre, Dieu l'interdit parce que dès l'instant où nous le faisons, c'est une idole. Et cela devient une idole, je le répète, cela devient une idole lorsque nous le révérons, lorsque nous lui demandons, nous lui donnons une place spéciale quelque part, lorsque nous lui demandons un secours, lorsque nous l'adorons. Cela devient une idole. Je sais que dans ce monde, il y a beaucoup d'hommes qui sont des hommes un peu spéciaux, dans ce sens qu'ils ont réussi. Ils ont réussi dans la chanson, ils ont sorti des millions de CD, et ils ont réussi d'albums de musique, ils ont gagné des millions de dollars, ils ont réussi dans le théâtre ou dans le cinéma, et on les appelle des idoles. Pourquoi on est arrivé à appeler ces gens des idoles? C'est simple. On les traite comme tels. On les regarde comme tels. Et eux-mêmes exploitent cela, car de cela, ils retirent un revenu assez intéressant. Et ils aiment être adulés, adorés. L'adulation, c'est un genre d'adoration. Par les foules, par les masses. Ils aiment voir ces jeunes gens en milliers d'entre eux devenir fous à leur musique, au son de leur musique. Le rock, le hard rock, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, des quantités d'adorateurs, regardez-les. Il y en a même qui tombent évanouis tant que l'excitation est énorme. Ils cassent les chaises dans les théâtres, ils deviennent complètement possédés. Il n'y a qu'à voir leur idole, comment ils se comportent, c'est plutôt une image satanique, sous bien des rapports. Quand on voit les idoles de ce monde, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de beau. Rien que de les voir, comment ils s'habillent, comment ils chantent, les mouvements qu'ils font, la façon dont ils se comportent, il n'y a rien de beau. Mais les idoles. Le Nouveau Testament nous parle contre les idoles aussi bien que l'Ancien Testament. Certaines personnes vont dire, oui, mais ça c'est l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Écoutez, ne cherchez pas à minimiser la pensée de Dieu. L'ancien et le nouveau se complètent. Il n'y a pas de séparation de l'un avec l'autre. C'est simplement la révélation de Dieu qui se fait aux hommes d'étape en étape, jusqu'à être parfaite en Jésus-Christ. Dans Ésaïe 42, verset 8, il est dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. » Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Je donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Autrement dit, Dieu ne donne pas sa gloire, son honneur au statut, ni aux hommes. Sa gloire est à lui, son honneur est à lui. Ce n'est pas au statut, ce n'est pas aux représentations de quelques personnages super, qui ont véritablement vécu dans le passé, Dieu dit non, c'est un homme, c'est tout. Un homme que j'ai sauvé, un homme auquel j'ai donné la grâce de faire quelque chose pour ma gloire, mais c'est pas à lui que je donne une petite parcelle de mon honneur. Voilà ce que dit Dieu. Dans Lévitique chapitre 26, verset 1er, il est dit, vous ne vous ferez pas d'idole, vous n'élèverez ni statue, ni stèle, et vous ne les placerez pas dans votre pays. Vous placerez aucune figure dans votre pays, aucune figure de pierre, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu, pour vous prosterner devant elle. Là, nous avons la définition exacte. Il arrive que certaines fois, on fasse la statue d'un grand pionnier, d'un grand inventeur qui a fait beaucoup de choses, d'une personne par exemple, vous avez Joliot-Curie en France, qui était un médecin, un chercheur qui a trouvé des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Le radium et toutes ses conséquences, la radioactivité et tout ça qui est à l'origine de tout ça. Bon, on lui a fait une statue en mémoire pour se souvenir de ses recherches et de ses accomplissements. Mais personne ne se met à se prosterner devant lui. Personne ne l'adore. C'est une effigie qui nous rappelle ce qu'il a fait. Il y a toujours la définition dans ce que Dieu dit ici pour se prosterner devant elle. Si un jour vous vous prosternez devant la statue de Joliot-Curie, eh bien, mes amis, à ce moment-là, vous en faites une idole et vous péchez. Nous lirons encore ce verset qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 7, versets 25 à 26. Chapitre 7, vous, verset 25. « Vous brûlerez au feu les statues de leur Dieu. Tu ne convoiteras ni l'argent, ni l'or qui sont sur elles. Et tu n'en prendras pas pour toi, de peur que cela ne devienne pour toi un piège, car l'Éternel, ton Dieu, en a en horreur. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. » Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison. Avez-vous des horreurs dans vos maisons? Qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient sculptés ou moulés, ou qu'ils soient imprimés ou peints. Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme elle, voué à l'interdit. Tu la tiendras pour quelque chose d'abominable et horrible, car c'est un interdit. C'est un interdit. C'est une malédiction. C'est une chose que je ne supporte pas. C'est une chose que je ne puis voir. C'est une chose que je ne puis accepter. Dieu doit-il être représenté? Est-il nécessaire que Dieu soit représenté, étant donné que nous ne le voyons pas, et que l'homme primitif va se demander, mais, tu me parles d'un Dieu, qui est-il, comment est-il, à quoi ressemble-t-il? D'abord, nous n'en avons aucune représentation quelconque, où que ce soit, de ce Dieu. Nulle part dans l'Ancien Testament, ni aucune description qui soit faite de lui et de son physique. Nous pouvons avoir des descriptions de son caractère, de sa personnalité, mais nous n'avons aucune description de son physique. Que ce soit Moïse au buisson ardent, duquel nous avons parlé dimanche dernier, de ce buisson qui brûle sans se consumer, et du milieu duquel Dieu parle, que ce soit sur la montagne du Sinaï, ou que ce soit au tabernacle, dans le désert. Dieu était là pourtant. Dieu parlait à Moïse dans le tabernacle. Et on pouvait constater sa présence par le symbole qu'il avait mis au-dessus de la tente. La colonne de nuée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. On pouvait dire, il est là. C'était un feu qui se tenait à une certaine distance de la tente. Et puis qui brûlait continuellement et éclatait de lumière pendant la nuit. Et le jour, c'était une colonne de nuée, une nuée, un nuage si vous voulez, mais qui restait là comme une colonne et avec des formes qui se meuvent. Voilà. Il n'y avait pas eu de description de ce Dieu-là. Il manifestait sa présence. Il manifeste sa présence jusqu'à aujourd'hui. De tant de façons dans l'Église et dans le cœur de ceux qui l'adorent et qui le servent en vérité. Nous savons qu'il est là. Nous pouvons le sentir. Nous pouvons sentir son esprit. Nous pouvons, certaines fois, nous sentons tellement sa présence. Nous sommes là sur nos genoux. Nous pleurons, nous adorons. Nous nous jetons à genoux. Nous nous jetons peut-être par terre. Nous levons nos mains. Sa présence est tellement sainte, palpable, concrète. Il est là. Mais les yeux de la chair ne peuvent le voir ou le décrire. Il n'y a pas de forme qu'on pourrait décrire ou copier à l'aide d'un pinceau ou à l'aide d'un ciseau pour pouvoir le modeler dans la pierre, le former dans la pierre ou dans le bois. Il est ce Dieu incomparable. Il est ce Dieu indescriptible. Celui qui ne peut être représenté par aucun humain, aucun humain ne peut le représenter, car il dépasse toutes les mesures humaines. Il dépasse notre imagination. Il est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un peintre, un sculpteur, fait travailler son imagination tout en même temps que son ciseau. Ce que le ciseau fait et ce que le marteau fait dans la main de l'artiste vient de son cerveau. Mais notre cerveau ne peut le contenir. Notre cerveau ne peut l'imaginer et lui donner une forme. Il dépasse tout. Rien dans tout ce qui a été créé ne vient même près de la ressemblance de ce qu'il est. Dans le monde, nulle part, on peut trouver quelque chose qui puisse lui ressembler. Et toutes ces imitations que nous pouvons faire, ce ne sont que des insultes à sa personne. Ce n'est que le diminuer. Je veux représenter Dieu, je suis obligé de le diminuer, car je ne peux pas le représenter tel qu'il est. Je ne peux le savoir, et ensuite tout viendra de mon imagination. Ce n'est que caricature grossière et insulte pour sa personne. Il est incomparable. Il est indescriptible. Il est merveilleux. Ce commandement, tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre, et tu ne te prosterneras point devant elles. Mais une limitation à l'adoration d'Israël vis-à-vis de son Dieu. Voilà. Mes frères, nous ne pouvons adorer Dieu n'importe comment. Voilà ce qu'il nous dit là. Nous ne pouvons adorer Dieu n'importe comment. Vous allez certaines fois dans certains endroits, les gens disent qu'ils adorent Dieu. Vous entrez là, c'est une foire. C'est un chahut. On a plutôt l'impression d'être dans un bar que d'être dans un lieu saint où Dieu est présent. Croyez-moi, si nous adorons Dieu en esprit et en vérité, il y aura d'abord de l'ordre, première chose. Il y aura ensuite de l'harmonie. Deuxième chose. Et il y aura ce quelque chose qui pénètre le cœur et l'âme. Il n'est pas nécessaire de faire du bruit et du chahut pour adorer Dieu. Mais non, bien sûr. Disons que il peut y avoir du bruit. Il peut y avoir des cris de joie lorsqu'on adore Dieu. C'est vrai. Mais il peut y avoir aussi le silence. Vous voyez? Il y en a qui pensent que plus on crie, plus on adore Dieu. Plus on crie et la voix devient rauque, plus on arrive à adorer Dieu. Mais non, moi j'ai envie de me boucher les oreilles quand c'est comme ça. Pourquoi? Ça ne me pénètre pas dans le cœur, mais ça me fait mal aux oreilles. Ce n'est pas le bruit qui fait que nous adorons Dieu mieux. Ce qui fait que nous adorons Dieu mieux, c'est quand on l'adore en esprit et en vérité. L'adoration que nous donnons à Dieu n'est pas seulement ce qui sort de la bouche. On peut faire sortir de la bouche beaucoup de choses. Des insultes, des mensonges, des paroles de violence, des paroles de toutes sortes. N'est-ce pas? Et en même temps, on vient le dimanche, on dit qu'on adore Dieu. Est-ce que de la même source peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Bien sûr que non. Est-ce qu'un bon arbre donne des mauvais fruits? Est-ce qu'un mauvais arbre donne des bons fruits? Bien sûr que non. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et ton cœur, s'il est rempli de Dieu, est rempli de l'Esprit, l'expression qui sortira de ta bouche sera une harmonie à la gloire de Dieu. Même si nous ne sommes pas des bons chanteurs, comme Noé et Kazadi, même si nous ne sommes pas des bons chanteurs, comme ces amis qui sont là, savez-vous que moi, lorsqu'on chante le dimanche matin, je vais vous dire un petit secret maintenant. Je sais que dans un moment, je m'en vais parler. Et que ma voix, des fois, se fatigue. Vous voyez mes lèvres bouger, mais souvent, il n'y a presque pas de son qui sort. C'est vrai? Je m'économise pour apporter la parole. Mais est-ce que j'adore moins pour cela? Oh Seigneur! Mon cœur t'exalte, mon âme t'exalte, et je me jette devant ta face. Adorez Dieu. On n'adore pas Dieu n'importe comment. On n'adore pas Dieu en battant le tambour le plus fort possible. On n'adore pas Dieu en criant, sans raillant la voix. Non, ça ce sont les efforts humains de la chair. Et certaines fois, on peut adorer Dieu très bien, calmement, et que Dieu n'y est pas. Ne vous trompez pas, mes frères. Je me demande si chaque adoration que nous présentons à Dieu ici à la borne, il les entend. Je me demande. Ceci dépend de nos cœurs. Ceci dépend de nos cœurs. Oh, que Dieu donne à chacun de ceux qui chantent dans cette chorale, que Dieu donne à chacun de ces musiciens des cœurs en harmonie avec Dieu, afin que l'adoration qui sortira de leur bouche, puisqu'ils nous dirigent dans cette adoration, soit une adoration agréable à Dieu. Et cette adoration coulera de leur bouche sur nous tous, et même ceux qui encore n'ont pas compris, qui encore sont pas dans l'esprit, soient touchés et terrassés par l'Esprit de Dieu, et qu'ils se donnent au Seigneur. Frères et sœurs, nous avons une part dans le culte, et votre part n'est pas moindre que la mienne, croyez-moi. Préparez-vous, priez avant de prendre la guitare, priez avant d'ouvrir la bouche dans vos cantiques, afin que cette adoration soit en esprit et en vérité, et qu'elle puisse être une bénédiction pour les autres. Non, on n'adore pas Dieu n'importe comment. On n'adore pas Dieu avec des idoles. Vous pouvez avoir de belles chorales et de beaux cantiques, mais des idoles, cette adoration ne va pas loin. Elle ne parvint, elle n'atteindra jamais les cieux. Dans la démonstration spectaculaire du Sinaï, il n'y a pas eu de représentation quelconque. La montagne a été secouée, les rochers se sont fendus, le vent a soufflé, une fournaise ardente était au centre de la montagne du Sinaï. Mais pas de représentation physique, pas de forme, mais seulement une voix, une parole prononcée par Dieu. Toute tentative de lui donner une forme aurait été impossible, injurieuse, interdite. Voilà, interdite. S'il vous plaît, faites attention. Quel genre d'image avez-vous dans votre Bible? Quel genre d'image vénérez-vous? Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir une image quelconque dans votre Bible, mais ce que je veux dire, votre vénération, en quoi la mettez-vous? Si rien ne peut le représenter dans tout l'univers, alors qui va le représenter? Qui va le représenter dans un monde au milieu des nations? Les nations n'ont aucun sens de Dieu. Pour eux, c'est une statue qu'ils ont fabriquée. La seule représentation possible que Dieu puisse avoir et que Dieu désire de sa personne dans le monde, vous m'entendez? De sa personne dans le monde est l'être humain qui porte son image et qui a le souffle de Dieu en lui et qui se consacre à faire sa volonté. Voilà la seule représentation qu'il puisse y avoir d'un Dieu qui est esprit. L'être humain transformé par la grâce sur lequel il a mis son empreinte. Israël ne doit pas faire d'image de Yahweh, son Dieu, mais doit être lui-même une image de ce Dieu dans le monde. Quand Israël est fidèle, Dieu a ses véritables représentants sur la terre. Quand l'Église est fidèle, Dieu a ses véritables représentants sur la terre. Quand Israël était infidèle et servait les idoles, alors l'image de Dieu était distordue, était caricaturale, était déformée. La seule vraie image de Dieu se trouve dans l'homme régénéré. Un homme régénéré. Il parle comme Jésus parlerait. Il vit comme Jésus vivrait s'il était encore là. Ou vivait quand il était là. Il se comporte comme Jésus se comportait. Il est patient, plein de longanimité. Il est courageux dans le témoignage. Il se laisse diriger par le Père, tel que Jésus le disait continuellement à ses disciples. Tout ce que je fais, car le Père me l'a montré. Je ne fais rien par moi-même. Prenez son exemple. Je ne décide rien par moi-même. Je n'agis pas par moi-même. C'est le Père qui est en moi, qui agit à travers moi. Voilà, Jésus était véritablement le symbole du Père au milieu des hommes. Maintenant qu'il est parti, qui doit le représenter de cette sorte? Ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ils parlent comme Jésus. Ils agissent comme Jésus. Ils se comportent comme Jésus. Jésus était plein de force et de courage. Il prêchait la vérité. Il n'a pas fléchi devant la persécution, mais il a aimé ses ennemis jusqu'à la mort. Il n'a pas cherché la vengeance, mais il a prié pour ceux qui le persécutaient. Voilà l'image que nous pouvons représenter au monde de celui qui nous a envoyés. Vivre pour un but, pour un autre but que de faire sa volonté, est de l'idolâtrie. Dès l'instant où nous l'avons accepté et que nous vivons pour un autre but que faire sa volonté, nous devenons idolâtres. Nous montrons alors au monde une autre image qui n'est pas la sienne. Si nous sommes en tant que chrétiens menteurs, voleurs, pleins de corruption, si nous sommes en tant que chrétiens magouilleurs, si nous sommes en tant que chrétiens pleins de convoitises et que nous sommes pleins d'impureté et de sottise, les gens diront « oui, c'est un chrétien ah. ». Mais ils verront en nous un chrétien, nous chrétiens, un Jésus corrompu, un Jésus menteur, un Jésus voleur, un Jésus tel qu'ils sont. Nous devons être à son image. Et lorsque nous serons à son image, nous le représenterons dans ce monde. Voilà la représentation que le monde doit avoir du Dieu éternel. Ah, c'est une responsabilité. Vivre pour un autre but que faire sa volonté, c'est de l'idolâtrie. Nous montrons alors une image autre, qui n'est pas la sienne. Est-ce que l'image que nous représentons au monde de Jésus à travers nous est une image réelle, vraie, de sa personne? Les idoles sont des choses futiles. Futiles. Les idoles sont des choses mortes, qui n'ont point de vie en elles-mêmes. Elles sont statiques, sans sentiment, inertes. Lisez dans Ésaïe 44. Comme le prophète, par l'inspiration du Saint-Esprit, tourne en dérision les idoles et ceux qui les fabriquent et les servent. Il est même sarcastique, quand il parle d'elles et de ceux qui les adorent. Il ridiculise et se moque en caractérisant la folie des personnes qui prennent un morceau de bois. Avec ce morceau de bois, ils se chauffent parce qu'il fait froid. Avec l'autre morceau de bois, ils font cuire leur nourriture. Et avec le reste du morceau de bois, ils vont se fabriquer une idole. Et après avoir fabriqué ce faux Dieu, ils se prosternent en disant « Délivre-moi, car tu es mon Dieu ». Voilà l'image que nous donne Ésaïe 44, des adorateurs d'idoles. C'est de la folie! C'est insensé. Ce Dieu n'a pas Dieu. Il a des yeux taillés dans le bois, mais des yeux qui ne voient point. Ce Dieu n'a point d'intelligence. Il a une tête en bois ou en pierre. Mais cette tête ne peut raisonner. Elle est morte, ce Dieu. Il a des oreilles taillées dans le bois ou dans la pierre, mais ses oreilles ne peuvent entendre. Et devant elle, nous nous prosternons pour dire « Délivre-moi, car tu es mon Dieu. » Il y en a qui disent « Mais et vous ne comprenez pas, ce n'est pas l'idole qu'on adore, mais c'est ce qu'elle représente. Parce que le peuple est un peuple ignorant, il a besoin d'une représentation quelconque. » Eh bien, écoutez-moi bien, cet homme soi-disant ignorant, cet homme soi-disant inculte, quand il voit cette statue, il regarde à cette statue. Il ne regarde pas à ce qui est au-delà de la statue. Et je vais vous dire qui est là, derrière la statue. Un démon. Un démon. C'est la raison pour laquelle Dieu interdit une telle chose. Ce Dieu est mort. Il dit que ceux qui servent un Dieu fait de sa propre main, le prophète Ésaïe nous dit que c'est un homme qui se repaît de cendres. Ésaïe 44, verset 20. Il se repaît de cendres. Il mange de la cendre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger de la cendre, mais voilà ce que c'est. De nos jours, on n'adore plus les anciens dieux tels que les générations passées nous en laissent des traces. Les anciens dieux grecs, les anciens dieux romains, tous ces dieux dans le panthéon de ces religions païennes, Jupiter, Zeus était grec, Jupiter était romain, Mercure, nous n'adorons plus ces dieux, Vénus, Aphrodite, ces déesses de l'amour charnel et de la beauté, entre guillemets, tous ces dieux à New York. Un homme qui avait perdu de très fortes sommes d'argent, qui depuis des années spéculait et travaillait, faisait travailler son argent et vivait luxueusement de la sorte. Lorsqu'il avait vu au moment de la chute des cours, au moment du crash de la bourse, que tout était perdu, tout, il a pris sa mallette, il est allé voir deux principaux agents de la bourse avec lesquels il travaillait. Ils rentrèrent dans le bureau avec lui. Il ouvrit sa mallette. Il prit son arme. Il les tua tous les deux et se tira une balle dans la tête. Ceci s'est passé il n'y a pas si longtemps lors d'un dernier crash. Le Dieu qu'il avait servi l'avait abandonné. Quand l'argent devient une fin en soi, c'est une idole. Vous m'entendez, mes frères? C'est une idole. Je me souviens du temps de la démonétisation ici au Congo. Je me souviens lorsqu'on a retiré tous ces billets de Zaïre, c'était des 1000 Zaïres, je crois, ou je ne me souviens plus le montant. Toujours est-il, c'était un billet bleu et on le remplaçait par un billet vert. Des 10 Zaïres, c'est ça. Mais ma, pas possible, pas possible. Savez-vous qu'il y a des gens qui se sont tués? Savez-vous qu'il y en avait des chambres remplies de ces billets et qu'ils ne pouvaient pas tout changer? Leur Dieu! L'argent était devenu une fin en soi. Si l'argent est pour vous une fin en soi, vous êtes un idolâtre et vous adorez Mercure. Qu'en est-il d'Hercule? Ça, c'est un dieu de l'ancien temps. On le voit partout, bien musclé, Hercule. Il a toujours une grosse masse. Une grosse masse avec lui. Et il porte un espèce de tablier fait de peau de léopard. Voilà le Mercure qu'ont adoré les Romains. L'Hercule, pardon, qu'on a adoré les Romains. Le dieu de la force. Il est toujours présent. Il est toujours adoré. Il est le maître de tous les stades du monde. Des millions le servent avec passion, comme en tant qu'acteur, comme en tant que spectateur. Le sport est devenu une fin en soi. Cet homme va tout faire pour pousser les limites, les aussi loin que possible. Même on prendra de la drogue, même on sait que cette drogue va à long terme détruire le corps, mais on veut le prix. On veut être le plus fort. On veut être acclamé. On adore le faux dieu Hercule. Le sport devient une fin en soi. Ils le servent avec passion. Ils passent tout leur temps à l'entraînement. Poussent les limites humaines à l'extrême. Pour être admirés par ceux qui exaltent l'espoir, l'exploit, la force. Tous ces dieux du panthéon romain ou grec. Nous les servons encore, ces dieux du spectacle, ces dieux de la richesse, ces dieux du pouvoir, ces dieux de la guerre, ces dieux de l'amour sensuel, qui sont toujours présents et qui nous adorent et que nous adorons. Mars, Aphrodite, Vénus, Diane, Apollon, Jupiter, Zeus, un mélange de faux dieux grecs et romains qui ont influencé toute la civilisation occidentale. Nous voyons leur statue dans les musées, en Europe, où que ce soit, et puis on les regarde et on passe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas actifs. Ils sont toujours actifs, ils ont toujours leurs adorateurs. Dès l'instant où ce que vous faites devient une fin en soi, vous avez une idole. Attention, enfants de Dieu, les faux dieux sont nombreux de nos jours, et ces idoles sont cachées, dissimulées, et bien trop souvent dans l'Église, qui devient idolâtre. Église de la borne, c'est à toi que je parle. Souvent, souvenez-vous comme Israël avait introduit dans le temple à Jérusalem des faux dieux des nations qui l'entouraient. Le culte rendu à l'Éternel se poursuivait avec les holocaustes, avec les sacrifices, avec tous les rites de la loi mosaïque. Mais, à côté de cela, il y avait les hauts lieux. À côté de cela, il y avait des coins réservés dans le temple à Jérusalem qui étaient réservés aux faux dieux des païens. Jusque dans le temple de l'Éternel. Même Salomon. Salomon qui avait bien commencé, l'homme sage et intelligent, l'homme béni par Dieu, l'homme dont l'intelligence et la sagesse surpassaient celle des hommes, l'homme qu'on venait visiter de partout. Il a mal fini son règne, à la fin de sa vie, pour plaire à ses nombreuses femmes qu'il avait prises d'entre toutes les nations. Il a mis des idoles dans la maison de l'Éternel. Il a accepté que les dieux de ses femmes aient une place dans le temple et sur tous les hauts lieux entourant Jérusalem. Vous voyez ça dans Romains, dans 1 Roi 11. Du temps d'Ézéchiel, de même, le prophète, la gloire de l'Éternel se retira du temple à cause des idoles et des abominations qui s'y trouvent. Ézéchiel 8, 7 à 18. Dieu déteste les mélanges. Dieu ne supportera pas dans ton temple, dans le temple de ton cœur, une idole. Ézéchiel 11, 21 nous dit, « Pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel, le Seigneur. » Les hommes sont aujourd'hui les mêmes et trop dans l'Église se débattent encore avec les idoles qu'ils ont servies une fois dans leur vie. Ils essayent d'adapter les choses de ce qui n'est pas adaptable avec la sainteté de Dieu, avec les choses saintes et les choses de Dieu. Il n'y a pas d'adaptation entre l'idole et le Dieu saint. C'est l'un ou c'est l'autre. Que dire de ces hommes et de ces femmes dans l'Église qui se débattent encore avec des choses entre guillemets, qui les visitent la nuit et qui font croire qu'ils sont leur mari qui est mort et qui font croire qu'ils sont cette femme, une femme quelconque et avec qui ils ont des rapports. Ce serait en rêve, ce serait en réalité, peu importe. Mais ces gens sont malheureux et tourmentés et il y en a dans l'Église. Il y en a des hommes, et il y a des femmes encore dans la maison de Dieu et dans cette église qui sont encore sous ce joug et ces visitations nocturnes, impures et sales qui viennent de l'ennemi. Mais ces gens sont malheureux. Je vais vous dire une chose, vous pouvez être libre. Mettez à la lumière et confessez. Il n'y a qu'une chose pour en être délivré. La confession, l'ennemi ne peut supporter, ne peut endurer la lumière. La confession, dites, mettez à la lumière ce qui a amené ces choses chez vous. C'est le résultat d'une idolâtrie. Une idolâtrie qui a été pratiquée peut-être autrefois, à un moment donné de votre vie. Confessez et mettez toutes ces abominations à la lumière afin de pouvoir être libéré. Et Jésus vous délivrera. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Voilà ce qu'il a dit. Mais vous avez ouvert la porte autrefois, avant d'être chrétien, que sais-je, à un moment donné de votre vie, que sais-je, à travers vos parents, vous avez ouvert la porte, vous êtes venu à Jésus-Christ, mais ça n'a jamais été confessé. Voilà, à tel moment, ce qui a été fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai cherché. Voilà le résultat aujourd'hui. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai crié à Dieu, mais je n'ai jamais été libéré. J'ai toujours cette chose qui vient me troubler la nuit. J'ai toujours cette chose qui vient me faire du mal la nuit. J'ai toujours cette chose qui est pour moi un interdit dans ma vie. Pourquoi? Parce que cette chose, c'est une idole que tu as servie autrefois. Tu t'en souviens plus? Demande à Dieu qu'il te le révèle et mets-le à la lumière. Il n'y a pas d'autre chemin. Combien d'hommes et de femmes sont dans la souffrance et l'oppression à cause de l'idolâtrie? Ne restez pas sous ce joug. Beaucoup de serviteurs de Dieu, l'argent est une idole pour eux. La position, l'orgueil est une idole pour eux. Les femmes sont des idoles pour eux. Combien de serviteurs de Dieu qui sont devant tout le monde, qui prêchent devant tout le monde, que tout le monde adule parce qu'ils font des miracles et des prodiges, tombent à cause de l'argent, tombent à cause de l'orgueil, tombent à cause des femmes. Idoles ! Attention de ne pas vous attacher à une chose, de ne vous pas attacher à une idée, à un système, à une forme, à une façon de faire comme une fin en soi. Votre vie devient alors statique, stationnaire et idolâtre. Nous avons essayé de ramener Dieu à notre image. Au lieu de nous réjouir de ce que nous sommes, nous, à l'image de Dieu, et de le représenter dans le monde. Au lieu de nous révéler, élever, au lieu de nous élever jusqu'à Dieu, nous avons voulu nous abaisser. Abaisser Dieu plutôt. Abaisser Dieu et le réduire à la mesure de notre logique rationnelle, de notre raisonnement humain, d'un Dieu qui rentre dans notre système religieux, d'un Dieu qui rentre dans notre système de vie, dans notre style de vie, selon notre culture. Nous avons voulu adapter Dieu à notre culture, un Dieu accommodant, qui voit comme nous voyons, qui comprend comme nous comprenons, super tolérant, voilà ce que nous voulons, à tel point qu'il n'est plus le Dieu saint de la Bible, le Dieu juste qui ne tolère pas le péché, mais un Dieu idéal qui laisse tout faire. Quel est le Dieu que nous avons? Ça ne veut pas dire parce que nous disons Jésus-Christ, Dieu puissant, Seigneur, à toi nous t'adressons, que ce soit lui qui soit sur le trône de votre vie et de votre cœur. Christ n'est pas une idole. Il lance un défi à notre vie terre à terre, à notre façon d'être terre à terre, d'homme de chair intéressé dans les affaires et dans le commerce plus qu'en Dieu. Jésus, il révolutionne tout. Avec sa douceur, avec son amour, avec sa patience, avec son support dans la souffrance, il révolutionne tout. Voilà l'homme fort, plus fort que l'autre, avec lequel nous pourrons subjuguer l'autre. Il révolutionne tout, il ébranle nos conceptions, il brise nos idées préconçues, nous appelant à le suivre, à le placer en premier dans nos vies. Pas d'idole qui le précède, non. Pas de forme sculptée de sa personne, car il est Dieu, ou d'une quelconque autre personne qu'on placerait dans un lieu dit saint ou consacré au culte et qu'on vénérerait. Non ! Vouloir le représenter, lui, Dieu, lui, le vénérer à travers une pierre, à travers un pinceau, à travers l'art d'un artiste, de nos mains, avec le ciseau, le marteau, le pinceau. C'est une insulte. l'incomparable, l'inimitable, le saint, le juste ne peut être représenté. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elle. Cette statue, cette image, cette imitation fantaisiste de sa personne ou de toute autre personne, tu ne le feras point et tu ne le mettras point dans ta maison. Tu te prosterneras devant lui. Celui qui se prosterne devant ces choses et qui les vénère et qui leur donne une place spéciale dans leur maison, ce sont des idolâtres. Sachez que le commandement dans le Saint-Livre subsiste. Il n'est pas abrogé. Dieu ne peut accepter d'être ramené à un dessin, à une peinture, à une sculpture. Son image doit être dans nos cœurs. Baissons la tête, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu nous montres combien ces choses sont sérieuses. Combien de fois nous avons été trompés et nous avons souffert. Oui, nous avons souffert parce que nous avons été idolâtres à un moment donné de notre vie. Nous avons été idolâtres et nous avons adoré des idoles. Nous avons servi des idoles. Nous nous sommes soumis à une discipline qui était une discipline d'idoles et de faux dieux. Et nous avons voulu représenter le Dieu vivant à travers une statue, à travers un dessin, à travers une sculpture, une image. Et nous l'avons vénérée. Nous l'avons mise dans une place particulière chez nous à la maison. Et nous l'avons vénérée. Rien que de lui mettre une place particulière dans la maison avec des fleurs devant, eh bien nous l'avons ainsi adoré. Nous l'avons vénéré. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Tu sais que c'est pour cela que beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous avons ces idoles qui viennent nous tourmenter la nuit encore, soit dans nos rêves, soit en réalité, et qui sont des esprits impurs et qui nous poussent à toutes sortes de choses impures. Seigneur mon Dieu, nous te demandons pardon pour cela. Y a-t-il des gens qui discernent en eux-mêmes, ici dans ce lieu, qu'il y a encore de l'idolâtrie, des choses qui n'ont pas été amenées à la lumière, qui n'ont pas été confessées, qu'ils se lèvent là où ils se trouvent. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Y en a-t-il d'autres encore? N'hésitez pas, mes frères, mettez-vous en règle avec Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas vous partager en aucune façon que ce soit. Levez-vous. Si vous avez des représentations quelconques, des choses qui vous gênent, des choses qui vous dérangent, serait-ce la nuit, des images que vous avez chez vous et qui sont là en obstacle, qui que vous soyez, n'ayez pas honte de vous lever afin que vous puissiez trouver la complète délivrance. Peut-être que vous n'êtes pas responsable vous-même, mais votre père, votre mère, que sais-je, comme vous étiez tout petit, que sais-je encore, dans la famille. Mais ces choses doivent venir à la lumière. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il ne peut pas y avoir dans vous une manifestation idolâtre, la nuit ou le jour, ou que sais-je. Il ne peut pas y avoir à vous quelque chose qui empêche un faux Dieu. Vous avez mis la première place pour l'argent dans votre vie. Vous avez mis la première place pour l'orgueil, pour la position sociale. Et c'est devenu un fait dans votre vie qui va avant tout et Dieu est derrière. Non, il veut être le premier. Mets Dieu en premier dans ta vie, mon frère, ma sœur, qui que tu sois. Cette parole s'adresse à toi. Tu n'auras pas d'image taillée, ni aucune représentation quelconque, ni aucune représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles. C'est-à-dire, tu ne vas pas leur donner une place spéciale. Tu ne vas pas leur donner quelque chose comme si c'était ça qui allait te protéger. Te protéger. Oh mon Dieu, je t'apporte tous ceux qui se sont levés. Tu les connais, Seigneur. Je te demande dans ta miséricorde de les toucher. Je te demande dans ta miséricorde de les pardonner. Tu sais qu'ils sont tourmentés d'une façon ou d'une autre dans leur maison. Certaines fois, pour eux, pour certains d'entre eux, la nuit, ils sont tourmentés, Seigneur, à cause de ces idoles auxquelles ils ont ouvert la porte à un moment donné de leur vie. Peut-être à travers leurs parents, peut-être à travers leur famille, peut-être à travers l'influence des prochains, de ceux qui sont près d'eux, peu importe, mais ces idoles ont pris la place. Seigneur, pardonne que ces idoles soient détruites au nom de Jésus. Qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Ô mon Dieu, donne-leur le courage de confesser, de mettre à la lumière. Seigneur, qu'eux-mêmes prennent l'acte de mettre, de parler, de mettre à la lumière ces choses, afin que la force ennemie cachée là disparaisse et que la paix de Christ vienne. Reprenez vos places. Ô Jésus, beaucoup de personnes se sont levées et je réalise que ceci leur a coûté de se lever ainsi dans cette salle. Mes frères et sœurs, c'est le chemin de la délivrance. C'est le chemin de la délivrance. Et croyez-moi que pour tous les actes idolâtres, occultes, que nous avons commis dans notre vie, il n'y a qu'une chose pour être délivré, c'est la confession. Choisissez des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent vous aider. Ils ne peuvent pas vous pardonner, mais ils vont vous écouter. Et en parlant à une autre personne, à deux, trois autres personnes, vous vous humiliez, vous reconnaissez, et ils sont là comme des témoins. Et vous priez ensemble. L'ennemi déteste que les choses viennent à la lumière. Pourquoi on parle d'occultisme? Ceci veut dire occulte, caché, noir, aveugle. L'occultisme, c'est une science de choses secrètes, cachées. L'ennemi aime ce qui est secret. Il n'aime pas la transparence. Mais révélez ce qui est secret. Mettez-le à la lumière et la libération sera pour vous en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Nous voulons maintenant participer aux besoins de ton Église pour faire courir cet évangile de vie et de libération. Nous te prions, Seigneur, de bénir les offrandes et les dîmes que tes enfants t'apportent maintenant. Merci, mon Dieu. Merci.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.